sur les ondes de Radio Esperanza, le 106.2, ici à Floref. Nouvelle invitée dans notre studio, Enfeli Kouyaté, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Comment ça va?
Oui, je vais très très bien. Je viens de rentrer avant-hier de la Guinée, Afrique. Tout va bien.
C'est une bonne ambiance là, ce Festival Esperanza, c'est 10 ans, cet anniversaire.
Et bon anniversaire, c'est vraiment chouette. C'est un festival vraiment familial, convivial, et les gens sont super. J'adore.
Comment s'est passé ton concert? Tu as joué tout à l'heure, il y a une bonne heure et demie, là, sur la scène côté sous, qu'il y avait du monde.
Oui, il y avait vraiment du monde. J'étais même étonné de voir ce monde avec mon concert solo. Et le public était vraiment super génial parce qu'ils ont, ils m'ont encouragé dès le premier morceau et ça dansait, ça chantait et puis voilà, c'était chouette. Ouais.
Qu'est-ce qu'on peut dire vraiment de ta musique? C'est de la musique traditionnelle, c'est sûr. Il y a des instruments africains, évidemment, on va en parler un peu plus tard. Mm-hmm. C'est aussi mélangé à de la musique plutôt moderne. Comment tu définis, toi, ta musique?
Au fait, moi, je fais de l'afro-rock, pop-rock. Et c'est de la musique et, c'est de la musique africaine, mais ce n'est pas de la musique traditionnelle. Ce n'est pas de la trad, mais je me sers beaucoup de la musique traditionnelle. Pour. C'est de la musique moderne africaine. Voilà, c'est ce qu'on a pu qualifier en Algérie quand je suis allé à l'Halal, une émission télévisée.
Et les instruments que tu utilises, notamment le kora qui est ton instrument principal, on va dire, c'est justement pour garder ce côté tradition, le poids des ancêtres, tout ça.
Ben, moi je suis d'une famille de musiciens traditionnels et j'ai appris tout traditionnel de manière vraiment rigoureuse et il fallait qu'on apprenne la base de tradition. Et la kora est un instrument traditionnel qui est la dernière évolution d'un nombre d'instruments à cordes. Et je joue vraiment, aujourd'hui j'ai joué des morceaux tels que Kelelon, le jour, l'aube de la guerre. Et c'est un morceau au 12e siècle qu'on jouait pour les chefs de guerre. Et c'était le jour où, quand la veille d'une guerre, les guerriers étaient assis autour du chef et le griot chante ce chant pour encourager les guerriers, leur donner du courage pour aller affronter l'ennemi commun le lendemain. Et j'ai interprété ça aujourd'hui et c'était vraiment merveilleux.
Et tu as expliqué au public justement le poids de cette chanson et ce qu'elle représentait pour toi. Tu crois qu'il a compris?
Exactement, en chantant ce chant, j'ai traduit, j'ai expliqué le mandingue directement, les différentes classes sociales du mandingue, telles que la classe des chasseurs qui non seulement apportaient les fruits de la chasse, mais par leur connaissance de la forêt et des plantes, et ils arrivaient à guérir les maladies parce qu'ils connaissaient toutes les plantes qui guérissaient des fleurs jusqu'aux racines. Donc, c'était nos médecins. Alors, j'ai parlé comme ça, j'ai parlé le rôle des pêcheurs dans notre société, en plus d'apport de fruits de la pêche, mais ils nous aidaient aussi à traverser. C'était comme nos marins, des forgerons aussi qui étaient nos fabricants, et les griots qu'on appelle chez nous le sang de la société. Et pourquoi cela? Parce que les griots sont partout dans la société, et quand il s'agissait de différends entre deux personnes, ils étaient là pour parler afin de régler le différend. S'agissant de la guerre, et régler ce différend, si c'était à régler, mais la guerre, par exemple, si c'était pour la défense du peuple, ils encourageaient les guerriers comme le chant Kelelon. Et quand quelqu'un mourait, ils venaient aussi parler dans la famille en deuil pour consoler les gens. Et j'ai expliqué tout ça parce que le griot étant partout dans la société, nous les avons appelés le sang de la société. Djili, voilà.
Je pense que tu vas être d'accord avec moi, Étienne, mais c'est aussi ça qui est bien dans un festival comme Esperanza, c'est qu'il y a la musique évidemment, et puis après il y a tout ce qui est autour, les explications comme Enfali est en train de nous faire et comme il explique au public, et donc tu sors d'ici, t'as pris du plaisir et en plus t'as appris des choses.
Je suis toujours d'accord avec toi, Aurore.
C'est déjà ça.
D'ailleurs après, oui, après le concert, il y a plein de public. Les gens sont venus me dire merci de m'avoir appris, machin. Ils étaient contents d'avoir appris le mandingue, parce que le mandingue, j'ai même fait la circonférence du mandingue qui était un empire de 12e siècle. Je parlais de ce mandingue dans ce chant, l'aube de la guerre, et la circonférence parce qu'on avait la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, le Mali, le Sénégal, pour ne citer que cela, faisait partie de ce mandingue.
On sait par exemple qu'un chanteur comme Tikenja Fakoli dit dans ses chansons qu'on a mal partagé cet empire en mandingue. Tu crois qu'on aurait pu éviter beaucoup de morts, beaucoup de combats, beaucoup de guerres si les Européens avaient bien fait les choses quand il avait fallu décoloniser?
C'est vrai, si on respectait les frontières et les frontières naturelles du mandingue, on allait non seulement sauver tellement de vies, on allait sauver de bains de sang, mais on allait fortifier aussi cet empire. Parce que il y a eu beaucoup de brassages dans cette portion de Manding. Par exemple, le peuple de Manding qui est resté au Sénégal a été brassé au Touareg et au Wolof. Et ces langues-là ont joué sur la langue Manding là-bas. Ça a même fait des déformations, des accents.
Aujourd'hui, on ne pourrait plus refaire un empire mandingue. C'est inimaginable.
Je pense que ça peut être un peu difficile. Parce que d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai rencontré une partie de mandingue, une femme qui vient de Guinée-Bissau, qui ne comprend pas français. Moi, je ne comprends pas le portugais non plus. Mais on parlait le mandingue. Et ça, alors, reconstruire ça.
Ça ressemble à quoi le mandingue? Tu peux parler un petit peu?
Ainiché, very bonjour. Tanate, comment vas-tu?
Tanate.
Tanate.
Oui. Et pour répondre, ça va?
Tanacité.
Tanacité.
Voilà.
T'as vu, on aura même appris le mandingue avec Radio Esperanza.
L'année prochaine, on va faire des cours de mandingue, je te propose. Tu as une heure de cours de mandingue, ça pourrait être marrant.
Écoute, moi aussi, je suis toujours d'accord avec toi, donc on n'aura qu'à faire ça l'année prochaine. Pour continuer, pour les auditeurs qui ne connaissent pas bien ta musique ou qui ne peuvent malheureusement pas être sur Esperanza, on va s'écouter un petit extrait du nouvel album qui sortira le 8 octobre prochain. Ça s'appelle La Guinéka.
C'est quoi cette chanson? Ça veut dire quoi ça, justement, La Guinéka?
Quand j'étais au studio, en train d'enregistrer, et c'était la période des élections en Guinée. Alors, ça m'a inspiré. Je dis, attends, je vais immortaliser cette fois-ci. J'ai chanté parce qu'il y a eu des rumeurs, des problèmes qui n'avaient jamais existé en Guinée avaient commencé à surgir. Le problème ethnique. Alors, il y a une ethnie qui se sentait plus supérieure à l'autre et autres. Bon, c'était l'ancien gouvernement, les militaires qui avaient instauré ça. Alors moi, j'ai directement essayé de composer ce chant pour dire « Nous tous, Guinéens, Soussous, Poulards, Malinké, toutes les ethnies, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. La Guinée nous appartient. » C'est ce que chante ce chant.
Comment tu as vécu, toi, ces élections en Guinée en décembre l'année dernière?
Au fait, les élections m'ont trouvé ici. La première partie, j'ai pu voter. Et la deuxième partie, il y a eu tellement de situations que j'ai pas pu voter parce que c'était pas très bien organisé.
Le second tour, tu n'as pas pu y participer, quoi.
Je n'ai pas pu participer parce que juste après le premier tour, il y a eu un changement. Ils ont fait il y a eu des problèmes qu'ils ont fait disparaître certaines cartes d'électeurs, dont la mienne, alors je n'ai pas pu voter.
Et tu étais toujours à Bruxelles, toi, pendant ce temps-là?
J'étais toujours à Bruxelles pendant ce temps. Heureusement, il y avait l'organisation, la police bruxelloise était venue vraiment mettre de l'ordre, et ça, c'était vraiment bien. Même si je n'ai pas pu voter, les élections étaient vraiment bien faites, ça au moins.
C'était tendu, vraiment, cette période-là, dans la communauté guinéenne, même en Belgique, même en Europe?
En Europe... c'était un peu méticieux, mais l'autorité et l'ambassade guinéenne a bien fait son travail et n'a pas tenu compte des problèmes ethniques. Et ça, vraiment, c'était vraiment bien. Oui.
Moi, je me souviens, j'étais à Paris à ce moment-là, dans un quartier, ce soir-là, le soir de l'élection d'Alpha Condé, dans un quartier africain où on a vu des scènes de liesse assez importantes. Comment toi, tu as vécu ça? C'est pour ça que je te demandais si on en avait beaucoup parlé. Comment toi, tu as vécu cette période électorale?
J'étais vraiment mal quand j'avais entendu que ça avait tendu et que le perdant n'avait pas l'intention de lâcher. Et je savais que les deux derniers qui étaient là, et si le perdant ne cédait pas, la Guinée allait s'embraser. Et je voulais vraiment, j'étais vraiment triste, et puis j'étais pas bien du tout, parce que je pensais aux pauvres gens qui sont en Guinée et qui n'attendent que ça pour qu'il y ait une stabilité politique. Alors, s'il y avait encore d'autres cafouillages, parce qu'on avait tellement versé du sang, et je ne voulais plus qu'il y ait d'autres effusions de sang.
Alpha Condé, pour certaines personnes, pour certains Guinéens, fait naître beaucoup d'espoir. Toi, c'est un espoir que tu partages ou tu es sceptique? On sait que d'autres disent aussi qu'ils sont déçus d'Alpha Condé. Oui. Quelle est ta position, toi, sur ce président qui est le premier président élu, dit-on, démocratiquement en Guinée?
Au fait, je n'aime pas la politique. Ça, c'est la première des choses. Moi, ma politique, c'est ma cura. Mais j'étais en Guinée il y a 2 jours. Et franchement, ce que j'ai vu de mes propres yeux, ça m'a permis de dire, laissons ce mec faire son travail, parce que ça aspire de l'espoir en Guinée.
On le sent vraiment quand les gens en parlent comme ça.
Ça se sent. Au fait, j'ai remarqué, je me suis renseigné, j'ai parlé avec des gens. Et toutes les ethnies guinéennes sont derrière Alpha Condé. Il y a des groupes des gens qui ne sont pas qui arrivent à critiquer ce gouvernement pour l'instant. C'était des gens qui avaient la main dans la fortune en Guinée dans les temps. Le militaire qui était là, il se servait de l'argent, la banque était devenue leur poche. Ils se servaient comme ils veulent et leur entourage faisait ce qu'ils veulent de la Guinée. Quelquefois, on t'arrachait ta voiture. Les militaires t'arrachaient la voiture, on te disait, va te plaindre là où tu veux.
On appelle ça les biens mal acquis, souvent.
Et ben voilà. Ici. Maintenant, quand Alpha est venu, il les a poussés, il a négocié avec eux pour qu'ils rentrent au camp pour reformer l'armée. Et directement, il a vu les salaires étaient quadruplés qu'il ne fallait pas. Il a dit, non, il faut revoir tout à la baisse. Alors, ceux qui avaient l'habitude de se servir à volonté ne peuvent plus. Alors, ce sont ceux-ci qui, plus, généralement, qui se plaignent en disant que ça ne va plus. Et sinon, les gens qui travaillent sont contents parce que même la police a arrêté arbitrairement les gens dans la rue. Mais non, tout le monde est respecté. Il n'y a plus de militaires qui est là avec leur béret rouge. Non, c'est les gendarmes et la police qui sont dans la ville. Et ça, c'est vraiment bien.
Et tu dis maintenant, pour aller vers un avenir meilleur, il faut aussi lui laisser du temps. C'est ça ton message?
Je crois que les 5 premières années là, ça sera des constructions. Parce que les militaires nous ont amenés à moins 10, même s'il faut. Alors, je pense que ces premières années là nous amèneront au niveau zéro. Et peut-être s'il arrive à vouloir être élu, bien s'il est élu, là, pour les 5 autres années, la démocratie va vraiment se sentir. Parce que pour l'instant, le fossé est vraiment grand.
Et pour le peuple, ça veut dire quelque chose aujourd'hui, démocratie? Les gens comprennent ce que c'est?
Les gens comprennent. J'ai fait une conférence parce que je suis allé aussi me faire connaître au pays. J'ai fait une conférence de presse et la première impression qui m'a beaucoup fait plaisir, c'est que j'ai trouvé toute une couche, la couche de presse, les journalistes, les animateurs de radio, c'est une couche de jeunes. C'est des jeunes de 20 à 45, 50 ans maximum. Et ça, j'étais très très content. Ils sont envieux de connaître. D'ailleurs, si je peux passer un message, je suis revenu avec un espoir et à la recherche. J'ai envie que les gens viennent en aide de la Guinée pour former ces journalistes et des gens techniciens. Ils sont avides de savoir, mais les moyens leur manquent. Je voudrais bien chercher et des possibilités pour mon pays, ceux qui peuvent faire quelque chose, voilà.
Ouais, visiblement, la politique pour toi, c'est la cora, mais ça, la situation du pays, ça te touche quand même. Hein,
oui, je veux bien que mon pays change. Et je vois que les Guinéens veulent changer, ils veulent changer. Et j'ai envie maintenant qu'ils ne changent pas à l'autre direction, mais qu'on aille dans la bonne direction.
Et pour que les gens changent aussi, il y a l'éducation. C'est aussi un message que Tikken transmet. En tout cas, la révolution africaine doit se faire par l'éducation. Toi, tout ce qui tourne autour justement de l'éducation, de la culture, c'est aussi un domaine qui te passionne. Et quand on parle de toi d'ailleurs, on parle souvent du gardien de la culture. Tu as d'ailleurs, si mes informations sont bonnes, construit une fondation sur la culture principalement mandingue qui s'appelle Namun School.
Oui. Namun School, c'est Namun veut dire la culture. Alors, ça vient du mot de notre ASBL qui est Namun Kanda, qui veut dire la défense ou la protection de la culture. Et Namun School, c'est une école et dans laquelle on enseigne la cora, le balafon, la percussion, les chants polyphoniques, la danse et d'autres instruments. Et nous donnons aussi, nous faisons des conférences aussi, des communications culturelles dans les écoles. Et tout ça, c'est vraiment donner ou bien montrer la valeur culturelle du mandingue.
Et comment ça se passe? Comment les gens peuvent arriver dans cette fondation? Comment ils peuvent se mettre en relation avec toi pour ça?
Et il suffit seulement de surfer sur namonschool.com ou bien falikuyate.com. Et il y a toutes les informations là-bas et tout le monde est le bienvenu. Nous avons des instruments sur place et ceux qui n'en ont pas peuvent venir s'inscrire. Et c'est pour ça d'ailleurs cette année qu'on envisage vers le décembre faire vraiment une sorte d'expédition avec tous les stagiaires. Mais ce ne sont pas que les adhérents de Namo School, mais d'autres personnes peuvent venir pour faire un stage d'initiation à la musique en Guinée et qui sera accompagné de visites des sites historiques qui sont là.
Donc le stage, l'expédition, ce serait évidemment en Guinée, ça c'est pour le mois de décembre, oui. Mais la fondation, les cours de danse, les instruments, oui. Tout ça, ça se passe à Bruxelles alors?
Ça se passe à Bruxelles, les cours hebdomadaires se passent à Bruxelles, et tous ces cours dont je viens de citer se passent à Anderlecht plus précisément, et nous avons bénéficié des locaux pour pouvoir donner ces cours-là. Et à la fin de chaque année, nous faisons un concert, une représentation des cours que les élèves ont pu avoir.
Et les instruments, comme les balafons ou la cora, ce sont des instruments que vous créez vous-même. On était avec les Beogun Numa hier au studio, et ils nous expliquaient qu'ils fabriquent eux-mêmes leurs instruments et toute l'importance que ça avait pour eux. Vous fonctionnez comme ça aussi?
Au fait, en Afrique, surtout dans la famille des griots d'où je viens, en Afrique, on n'a pas de luthier. Il n'y a pas de gens qui sont spécialisés à la fabrication des instruments. Nous apprenons à fabriquer les instruments en même temps qu'on apprend à les jouer. Et donc, la cora, le balafon, nous les avons appris. Mais avec le temps, nous n'avons pas le matériel, on en achète aussi. Et le plus souvent, je ne sais pas comment dire, aider ou bien quoi, les musiciens qui sont en tournée, à la fin de leur tournée, voudraient bien rentrer avec un peu d'argent et me consultent souvent. Et même si je ne veux pas, ils veulent que j'achète leurs instruments et je les achète aussi. Et ils sont contents avec, et puis voilà. Et c'est ce qui a fait que nous avons des instruments sur place.
Et puisqu'on parle d'instruments, on s'était mis d'accord en antenne pour que tu nous fasses un petit extrait à la guitare, puisque tu as envie de t'initier là tout de suite en direct. C'est pas mal quand même, hein, un artiste qui accepte de jouer d'un instrument, qui plus est un instrument qu'il ne connaît pas. Donc on t'écoute, à toi la guitare et à toi le micro.
Ça va chauffer.
Bravo, oui, bravo. Il faut quand même dire qu'Anne Fali, il n'est pas du tout guitariste, donc voilà, il a quand même accepté de jouer, merci.
Voilà.
C'est ça aussi à Radio Esperanza, un artiste qui vient, qui s'initie à un instrument et qui nous fait participer.
En direct,
bon,
tu gratouilles un petit peu de temps en temps quand même, parce que bon, visiblement, tu connais un peu les accords quand même.
Mais... En fait, quelquefois, quand je veux composer, quelquefois, je compose au piano bien ou à la guitare, voilà.
Au fait, on avait une question l'autre jour avec mon copain Julien, avec qui on anime aussi de temps en temps. On se demandait, on ne savait plus, un joueur de kora, on dit comment ?
Kora Fola.
Un kora Fola.
Oui.
Le joueur de kora, on dit le kora Fola. Quoi.
Oui.
On se demandait si c'était le koraliste ou le. Et on n'arrivait pas à trouver la réponse nulle part. Quoi. Donc tu dis le kora Fola.
Kora Fola, c'est comme djembe Fola. Et Fola veut dire joueur. Bon. Et on préfère Kora Fola, oui.
Eh ben, je transmettrai le message. Merci en tout cas, Anne Fali, d'être passée nous voir.
C'est avec plaisir.
Et qui est un Kora Fola, voilà.
Hein, c'est
quand
un
même.
Kora Fola.
Et pas un guitariste.
Un Kora Fola qu'on doit lâcher parce qu'on avait voilà, un petit peu de temps. On l'a pris. On se retrouve bientôt, j'espère.
C'est avec plaisir qu'on va se voir. Et merci et à très bientôt.